marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Dernier Top Inter, 13h.
Et oui, comme hier, nous sommes encore un peu avant mai 68.
Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison, souvenir, souvenir, il me reste nos chansons.
Ce vendredi, Jean-Pierre Le Goff, un adolescent d'autrefois, avant 1968.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Donc on va commencer avec Johnny. Ce sont les chansons qui expriment le mieux le bouillonnement de la jeunesse des années 1960. Un bouillonnement qui cherche son nom dans des paroles dont le sens a moins d'importance que le son qu'il rende. Mais d'abord, pour Jean-Pierre Le Goff, notre témoin d'aujourd'hui, né en 1949, il y avait eu l'enfance. En Cotentin, entre terre et mer, entre deux milieux, les parents amorçaient une ascension sociale. Entre deux époques, la guerre était finie sans lettres. Les enfants jouaient encore aux billes et aux osselets, mais déjà aux petites voitures en format réduit. On accélérait sur la route du développement économique et technique, mais on n'en était qu'au premier tournant et on n'avait pas encore perdu de vue le monde ancien. Les années 60, ensuite, ce sera une autre étape. Les adultes sont tentés de déclencher un peu, en tout cas de jouir du produit de leurs efforts. Les loisirs modernes dessinent un univers nouveau. Le transistor, le petit écran, l'électrophone diffusent la musique rock. Elle intensifie le présent. Mais ceux des adolescents qui, comme Jean-Pierre Le Goff, vont au lycée et sont encore formés aux humanités classiques écoutent aussi Léo Ferré. Léo Ferré qui demande si, au temps du plastique et de la télé, on est vraiment plus heureux. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus ? Nous allons beaucoup interroger dans les semaines qui viennent l'événement, mais 1968, mais il faut prendre la bonne distance, l'inscrire dans la durée. Le modèle adolescent, tout doit m'être possible, se tient déjà au premier plan, mais les modèles anciens que portent toutes les institutions et qui vont être remis en cause, ils subsistent encore comme des soleils révolus. Jean-Pierre Le Goff, bonjour.
Bonjour.
Alors on vous connaît pour votre regard moqueur et insolent. Vous le dites deux fois dans le livre qui vient de paraître chez Stock. Vous ne pouvez pas le nier. La France d'hier, récit d'un monde adolescent. On vous connaît aussi pour la liberté de votre accent, non ?
Oui.
Oui, voilà. Vous ne pouvez pas me démentir. On vous connaît pour votre participation au débat politique et intellectuel. Mais là, vous tentez une expérience personnel, vous essayez de retrouver ce que vous avez été. La pensée naît de l'expérience vécue. L'expérience vécue mérite d'être retrouvée dans l'exactitude la plus proche.
Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire parce que j'estime que le monde d'hier est devenu totalement incompréhensible aux nouvelles générations. Et c'est dans une optique, j'allais dire, d'essayer de renouer le fil. Je pense qu'il s'agit de faire comprendre avant de juger. Et là, c'est un récit d'égo-histoire, on va dire, avec des allers-retours entre le monde ancien et le monde présent. Je pense que c'est par ce type d'écriture qu'on peut essayer de rendre un climat d'époque.
On va retrouver un paysage régulièrement dans votre livre, c'est celui de la Hague, la pointe du Cotentin de votre enfance, un pays entre terre et mer, superbe.
Oui, c'est un paysage magnifique, qui a beaucoup évolué depuis, mais qui, à l'époque, était un peu le bout du monde.
Et là, a travaillé longtemps Paul, qui va faire l'objet, beaucoup plus tard, au début de ce millénaire, d'un documentaire. Mais Paul, il a continué à travailler dans la tradition familiale comme si de rien n'était.
Je vais te dire quelque chose que je n'ai encore jamais dit à personne. Pas même à mes soeurs. Oui. Le père de Nella Charles. Il ne savait plus. Ouais. C'était moi qui menais les chevaux. J'arrêtais les chevaux, je lui dis non, on va pas. apprends les choses, tu vas avoir moins de misère. Je dis non. On a parti, on fait un tour. But, il me dit, arrête. Il m'a arrêté, le bonhomme s'en allait. Puis moi. Lui, il dit, dis donc, j'abandonne mes projets et je reste là. Je continue. Et je continue. Voilà pourquoi j'ai continué. C'était mes mains qui remplaçaient les siennes. Alors naturellement, j'ai pas voulu laisser maman toute seule, mais voilà le pourquoi. Enfin tout ça, je veux dire, comme il y avait notre voisine dans le temps, oh là, je sais pas, c'est la vie, non ?
Et une pirouette pour finir, c'est le documentaire de Rémi Mauger. Paul va vivre dans une fratrie de célibataires, comme naguère, avec ses deux sœurs. Eh bien, au risque de décevoir beaucoup d'auditeurs qui attendent un récit écologiste sur le Cotentin, c'est pas du tout le milieu qui est le vôtre.
Non, mon milieu familial, je veux dire social, c'est un milieu à la fois commerçant et de marin-pêcheur, c'est-à-dire ouvert sur la mer, avec la passion de la mer, et ce sont des milieux qui ne communiquent pas si facilement, mais c'est très différent. La Hague était quand même le bout du monde, je le disais, on parle souvent dans Normandie des Orzins, mais là c'était vraiment accentué. Je me souviens par exemple à l'époque d'une dame qui venait acheter au commerce de ma mère et qui venait en carriole, on avait un peu encore des restes du 19e siècle, si vous voulez, qui existaient en plein 20e.
Vous, c'est Écœur de Reville. La rue Gambetta, au milieu du bourg, votre mère y tient un commerce. C'est très important dans nos souvenirs d'enfants, d'adolescents d'autrefois, les commerces. Moi, je me souviens de l'épicerie, Marie Bourdet. Il fallait à peu près une demi-heure pour se faire servir, mais on était au courant de toute la vie du village, du boucher, Monsieur Tronchon.
Oui, ben là, c'est un peu la même chose. C'est un peu l'univers familier de l'enfance. C'est-à-dire que vous avez le sentiment de naître dans un univers qui est assez rassurant. Pourtant, Dieu sait s'il y a un certain nombre de dangers, parce que vous avez des rapports interpersonnels, on va dire, en langage un peu plus moderne. Chacun son caractère, il y a un trait de caractère, il y a le boucher, on avait peur du boucher, parce qu'il y avait encore dans le ruisseau du sang qui ruisselait, il y avait la dame de la droguerie, toujours bien maquillée, on racontait beaucoup de choses sur elle, il y avait le coiffeur, donc c'était un peu le Heimat, pour reprendre, j'ai écrit un livre sur le village, c'était pas tout à fait un village, c'était un bourg, mais c'était le Heimat qui donne les premiers repères de familiarité avec le monde, dans un sentiment de sûreté et je dirais d'assez grande liberté.
D'assez grande liberté, parce que on joue avec les enfants des commerçants et les autres dans la rue, sans être surveillé de très près, on joue même avec les voitures ou les camions qui peuvent passer. On joue à la fois aux billes et aux osselets et avec plus de liberté, dites-vous, que les enfants d'aujourd'hui.
Oui, il n'y a pas l'obsession de la performance, y compris l'angoisse des parents qui fait peser sur les enfants un poids de responsabilité énorme. D'autre part, on ne tient pas à nous considérer comme des citoyens avant l'heure, se mobiliser pour différentes grandes causes. On ne nous fait pas porter toutes les misères du monde. L'enfance est encore un moment d'insouciance et c'est une condition pour grandir, aussi paradoxal que ça. Ensuite viendra l'adolescence, mais là aussi la sagesse de l'ancien monde est de dire, eh bien, il faut que jeunesse se passe sous l'œil bienveillant, mais quand même assez exigeant des adultes. Et s'il n'y a pas ces différentes étapes de la vie, qui d'ailleurs à l'époque étaient marquées par des rituels dans lesquels la religion intervenait beaucoup, bon, il y a le baptême, il y a l'entrée à l'école, il y a la première communion, la deuxième communion, le mariage, enfin ça c'était le chemin classique avant 68. Donc, si vous passiez pas un peu par ces différentes étapes qui ont chacune leur spécificité, eh bien, vous étiez un adulte mal fini. Et il fallait se méfier des adultes mal finis qui n'avaient pas vécu toutes ces étapes. Mais c'était surtout le sentiment de on n'était pas sans arrêt derrière nous. On pouvait avoir des plaies, des bosses, on réglait nos comptes à coups de poing, bon. Mais il y avait une espèce de limite intériorisée. Vous pouviez pas aller trop loin, parce que comme tout le monde connaissait tout le monde dans la rue, vous auriez eu des ennuis avec les parents des autres, etc.
La réputation.
Donc, vous étiez à la fois, vous pouviez être violent. Aujourd'hui, ça paraîtrait, je cite des cas qui paraîtraient, le danger est possible. Il n'y a pas d'assurance, si vous voulez, hein. J'allais souvent chez leur bouteux ou leur bouteuse. Mais, au moins, vous aviez ce sentiment où les adultes n'étaient pas sans arrêt derrière vous et un peu obsessionnels. Comment vas-tu?
Bon, enfin, les instituteurs étaient sévères. Les prêtres vous regardaient de surplomb. Alors, vous citiez les cérémonies religieuses. Je vais vous faire entendre la voix d'un adolescent d'autrefois. Juste après mai 68, François Mauriac a publié, comme vous aujourd'hui, ses souvenirs d'enfance et d'adolescence. Écoutez-le sourire à voix étouffée, parler du refoulement, oui, que provoquait l'éducation catholique, mais...
Je n'aime pas l'érotisme actuel, mais je connais les inconvénients et les dangers de l'excès opposé. Enfin, le refoulement, si vous voulez, le refoulement auquel nous étions condamnés, nous, était tout de même... C'était l'autre danger, si vous voulez. C'était l'autre danger. Il est évident que notre éducation, la mienne, en fait, qui était même à l'époque assez exceptionnelle, je m'empresse de vous dire, eh bien, était absurde. Non seulement absurde, mais dangereuse. Et je ne correspondais pas au type prévu, enfin, et conforme. J'étais pas conforme.
Conforme non plus à la religion traditionnelle.
Et à la religion traditionnelle, encore moins. J'ai toujours été très mal vu du côté, en ce temps-là. Ça fait sourire aujourd'hui, n'est-ce pas, où l'érotisme coule à plein bord. Mais moi, je passais pour un mauvais auteur, dangereux, et enfin, on a souvent cité le mot du général de Castelnau, disant « jamais je n'accepterai qu'il y ait un livre de cet homme-là sur la table de mes enfants ».
Contrainte, refoulement, oui, mais il appelle ça liberté, vous appelez ça ruse, vous, Jean-Pierre Le Goff. Il y a des moyens d'en prendre et d'en laisser, de ne pas être conforme.
Bien, extérieurement, on a l'impression qu'on a affaire à des enfants bien gentils qui se lèvent, qui font la prière avant de commencer la classe, puisque c'était ça. Et en même temps, ça ne veut pas dire une soumission totale. C'est ce qui est assez difficile à comprendre aujourd'hui. Je pense qu'il y a une liberté intérieure, un quant à soi. On serre les dents, mais ça ne veut pas dire qu'on approuve. Il y a même des choses très dures dans l'éducation que je raconte dans mon livre. Mais je dirais que ça déculpe l'envie de garder pour soi une rage qui commence à être entrée, qui va éclater beaucoup plus tard à l'adolescence. Mais il y a toujours cet espace intérieur de liberté. Vous dialoguez toujours avec vous-même, vous dialoguez avec des amis qui sont vos vrais amis. C'est pas avec les prêtres, malgré leurs efforts pour sonder les reins et le cœur de nos jeunes âmes, n'est-ce pas, à travers les confessions et différentes choses qui tournent toujours autour de la même chose, hein, c'est le péché de la chair, il y a toujours la masturbation derrière, on vous le dit pas, mais enfin... il n'était pas question que je confie au curé d'une façon psychologisante comme un ami, c'était réservé aux amis, c'est pas réservé au curé. Et d'autre part, à l'époque, les curés prenaient ça comme un sacrement, c'est-à-dire, bon, ils disaient, on va leur inculquer le maximum de dogmes, et il y en avait beaucoup, je les cite, c'est incroyable, hein. Après, on sait qu'il y a la période de l'adolescence, ils vont mettre tout ça en l'air, mais au moins, il y a un background, si j'ose dire,
il y a une vitesse
acquise qui va rester. Et je dois dire, c'est pas totalement faux.
Mais venait l'adolescence... Et la rage, et les démangeaisons.
Et regarde un peu, celle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir serait de y parler. Elle la guiche mes amis, même les plus petits. Pourtant pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible.
Tu veux bien la dernière. C'est pas la
dernière. Et regarde un peu cette voiture. On la dirait vraiment faite pour moi. Et ils ont peur pour rouler avec ça. Et la chance que je pense au prix de l'essence, je perds subitement l'envie de me la payer. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser.
cette voiture-là, mon vieux, est terrible.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En surimpression et en pleine exposition maintenant, la voix de Jean-Pierre Le Goff, la France d'hier, récit d'un monde adolescent, les années 50, 60 maintenant, avant mai 68. Si j'étais prêtre, je dirais, mais est-ce qu'il parle vraiment d'une voiture ou est-ce qu'il ne parle pas des filles, la Johnny? Alors, si je comprends bien, Écœur de Reville, votre mère commerçante, il y avait déjà une voiture, il y aura une maison à la plage dans les années 60, les appareils ménagers, la télé, parce qu'avant on la regardait dans la vitrine du marchand de poste, hein. Maintenant on l'a à domicile. Et puis alors, un électrophone Tepaz. Et alors, qu'est-ce qu'elle écoutait sur l'électrophone, votre mère?
Jean Lumière.
Jean Lumière.
Mon amant de la Saint-Jean. J'écoutais ça, je dois dire que j'arrivais pas tellement à adhérer, j'étais encore jeune. Et quand est arrivé pour la première fois, j'ai un souvenir très net... Johnny, qu'on appelait, que mes parents appelaient Holiday, n'est-ce pas? On mit Kili Watch, c'était pour moi une découverte extraordinaire. Il y avait une pulsion, une force dionysiaque, dirait Edgar Morin, disait Edgar Morin. C'était vrai, c'était un son totalement inédit. Alors, les adultes ne pouvaient pas comprendre, parce que Kili Watch, 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 Kedo, Ken, Kaaba, ça veut strictement rien dire, si vous voulez. Mais ça faisait écho aux pulsions de l'adolescente montante et au désir qui commençait à pointer. Et là, c'était une libération.
Le déhanchement de Vince Taylor, chaîne et blouson de cuir, vous touchait davantage.
Ah oui, oui, je pense que Checking All Over, pour moi, est un des grands moments. Oui, parce que c'était beaucoup plus violent, ça transgressait beaucoup plus, si vous voulez. Alors que les yéyés de l'époque étaient quand même... comment dire, ça ne transgressait pas outre mesure, ce qui était très différent d'ailleurs de la révolution de la pop anglaise. Le rapport garçon-fille à l'époque et les rapports étaient difficiles, contrairement à ce qu'on dit. Il y avait toujours cette limite, je cite Françoise Hardy et France Gall, je suis d'accord pour aller au cinéma, je suis d'accord pour le tcha-tcha, mais je suis pas d'accord pour aller chez moi. Et il y avait en contrepoint les Chats Sauvages, qui chantaient une chanson qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque, c'est pas sérieux mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Vous voyez, ça c'était déjà les yéyés. Et vous étiez au milieu de tout ça, vous aviez cet ancien monde avec ce moralisme issu du 19e siècle, et vous aviez une société totalement moderne qui était poussée par une dynamique de la modernité, avec, au moment de l'adolescence, et l'adolescence, elle était vraiment entre deux mondes. C'est une adolescence de cette génération qui a un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau, et c'est elle qui va faire la bascule, d'une certaine façon.
Mais vous aviez un avantage, je parle des choses sérieuses, là, celle de la sexualité. Vous pouviez emmener vos amis, on va faire de l'écriture inclusive, parenthèse E, parenthèse S, dans votre maison à la plage.
Oui, mais il y avait un côté très romantique, c'est-à-dire que le rapport aux filles, comme on disait à l'époque, était inséparable d'un rapport à la nature. D'ailleurs, nous lisions Camus, Les Noces, etc. Et avec, on projetait, ce qui était, fallait quand même le faire, les paysages méditerranéens de Camus dans la Hague, qui est beaucoup plus genre Bretagne, venteux, pluie, mais on voulait absolument ça. Et les rapports avec les filles à l'époque, le flirt et même plus, c'était toujours dans un rapport à la beauté du monde, j'allais dire.
Donc promenade depuis la maison d'Urville, la maison à la plage, jusqu'au chemin des douaniers, à Tipaza, enfin le Tipaza de Jean-Pierre Le Goff, c'est en effet la Hague. André Voisin, en 1971, a visité pour son émission les conteurs, la presqu'île de la Hague, et rencontré André-Louis Albert Leuillet, que je crois vous connaissez au moins de nom.
Ici, nous sommes dans une petite pointe, parce que il y a 10 km, pas plus, pour retrouver l'autre versant de la mer, est toujours la mer, et le vent.
C'est cette terre quoi, qui est au cœur de la mer, ça tout de la mer, ça reçoit tout de la mer, et en même temps, c'est la terre qui s'y intègre. Quoi. C'est vrai, ça.
La Hague, vous savez, c'est mon... Comment je vous dirais, c'est mon pays, ma nation, c'est... Je peux pas me séparer d'elle.
Entre la Hague et Origny, il y a ce qu'on appelle les raies, comme les haies qui séparent les champs, les raies, il y a les raies. Et alors, la mer, surtout en marée montante, se précipite dans ces vallées sous-marines, quoi. avec une violence inouïe, quoi. Ce qui provoque d'ailleurs à la surface des remous terribles. Et si on est en bateau en grande marée, on fuit le rat, on ne peut pas traverser le rat, comme on dit le rat Blanchard, qu'on appelle d'ailleurs Blanchard, parce que la mer bleue est blanche, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle le rat Blanchard. Et si on est aux abords du rat, alors le bateau se tord, il revient, comme ça, mais si on contrariait le bateau, alors là, c'est impossible, parce qu'on aurait à peine commencé un mouvement de barque, aussitôt il serait reparti de notre côté, ce serait ingouvernable.
Et quand je suis arrivée dans cette région, dans ce pays, je l'ai trouvé tellement beau, tellement solitaire. Donc je me suis dit, je vais rester là. Je n'ai pas vu l'usine.
Votre usine entrera en activité à la fin de l'année prochaine. Combien y aura-t-il de personnel dans cette usine ?
Le personnel de l'usine proprement dite est évalué à environ 1000 agents, dont 60 ingénieurs. Nous avons fait appel au recrutement local dans une proportion d'environ 30%.
Mais est-ce que vous avez l'impression que les jeunes s'intéressent à cette ère atomique qui commence pour eux ?
Oui, certains pensent déjà à se reconvertir vers une formation spéciale pour pouvoir occuper des postes à cette usine plus tard.
Les années 60, telles que les décrit Jean-Pierre Le Goff, sont des années de cohabitation. Et même à La Hague, il faut que le paysage sauvage, les hauts de Hurlevent, cohabite avec l'usine atomique que France Inter, on entendait une grande enquête de France Inter de 65 décrit comme quasi idyllique, mais la presse de la Manche que lit toute votre famille, le grand quotidien du département, titre à la place des vieilles landes incultes, une étonnante production de l'esprit humain se dresse à La Hague, l'usine.
Ça a été un élément de bouleversement très important par le chantier déjà, c'est-à-dire la possibilité de reconversion en sachant qu'il y avait une main-d'œuvre de bas niveau de qualification quand même. D'autre part, ça a été aussi une ouverture puisque il y a de nouvelles populations qui arrivent. D'ailleurs, je cite un extrait d'un sermon en disant attention, on va voir les ouvriers arriver. Donc c'est un bouleversement considérable avec des infrastructures routières où la rue Gambetta est traversée par des camions, ça fait beaucoup de trous, on va refaire tout. Donc c'est un changement très important et en même temps il y a encore cette beauté de La Hague. C'est le CEA, c'est des gens qui n'ont pas du tout la culture de La Hague, des Orzins, qui vont d'ailleurs avoir du mal au début à s'implanter, parce que les étrangers, quand même, on se dit pas si facilement. On ne fait pas partie de la famille comme ça. Mais le problème, je pense qu'il ne faut pas relire ça aujourd'hui à l'aune de l'écologie, aujourd'hui, parce que je pense que c'est un anachronisme. À l'époque, il y a eu beaucoup de résistance, de questions. Mais finalement, la majorité des paysans ont vendu leurs terres et il y avait un côté de la modernité, de l'atome. Si on ne lit la réalité des années 60 qu'à partir, j'allais dire, de ce point d'aujourd'hui, on risque d'oublier la passion de la modernité qui habitait beaucoup de gens, y compris chez les syndicalismes agricoles de l'époque, qui ont été un des facteurs très importants de cette modernisation de l'agriculture.
Alors, vous grandissez, vous faites maintenant vos études secondaires, vos parents attendre que vous passiez le bac. Bon, vous racontez en détail la manière dont vous avez passé le bac, c'est pas notre sujet. Enfin, si, ce qui nous intéresse, c'est le gamin un peu rebelle, insolent et moqueur, et qui voit arriver au collège des prêtres modernes, munis de guitares, de bons sentiments. Vous devriez être content, le dogme s'effrite.
Non, mais on est assez réticent, au moins une minorité qui d'ailleurs finira par être exclu de l'école, parce qu'il y a la rencontre avec un professeur de philosophie qui sort du registre habituel d'un certain type de prêtre, je veux absolument pas généraliser, mais qui lui est beaucoup plus philosophe, soutient une dimension un peu, on va dire, nietzschéenne, de la révolte, qui essaie de comprendre et qui est, je dirais, assez costaud intellectuellement, et en face de ça, vous avez un certain type de prêtre, rempli de bonne volonté, qui essaie de s'adapter à la modernité. C'est après Vatican II. Et là, je dirais qu'il y a un petit côté cucu, excusez-moi l'expression, qui ne nous plaît pas beaucoup, avec beaucoup de démagogie. Enfin, c'est comme avec quelques amis, on le trouve de cette façon. On joue à la guitare, on s'intéresse au yéyé, on essaie de nous parler des filles, seulement ça fonctionne pas, et le flirt, comment ça se passe. Je dirais qu'il y a un catholicisme sentimental qui commence à arriver, et un grand méli-mélo de sentiments où on essaie d'évangéliser des adolescents en révolte. Et ça ne prend pas, parce que l'adolescent en révolte, on nous laisse des espaces de liberté. Eh bien, si on nous laisse des espaces de liberté, on va les prendre. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on se fera exclure. Mais on les prend.
Mais heureusement, il y a l'exemple du prof de philo qui vous dit, il est prêtre lui aussi, hein, « Regardez de vos yeux d'être jeune, soyez saisis par la vie et par les événements que vous traversez. » Alors, une admiration infinie pour ce prof de philo. Vous finissez par fumer les mêmes cigarettes que lui, d'ailleurs.
Oui, il y a eu une espèce d'identification. C'est très important dans les parcours de vie, notamment à l'adolescence, de rencontrer des maîtres. Ensuite, vous pouvez vous en séparer, vous pouvez les critiquer, mais vous en avez rencontré.
Et un grand compagnon, sinon un maître, on avait commencé avec Johnny, on va finir avec Bob Dylan.
You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you
say,
who
is
that
man?
You try so hard,
and
but you
don't understand.
Don't understand. Just what you will say when you get home. Because something is happening here, yeah, but you don't know what it is.
Do you?
Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
Si je comprends bien, Jean-Pierre Le Goff, Vanden, le prof de philo, était aussi votre prof d'allemand et Dylan était votre prof d'anglais.
D'une certaine façon, oui, Dylan avait une grande importance.
Alors pourquoi?
On a dit de Dylan, c'était très lié à ce qui se passait aux États-Unis, notamment la marche contre le Vietnam. C'était vraiment qu'un aspect, parce que ce qui nous importait au-delà du message, c'était l'idée qu'il y avait une jeunesse qui était en train d'arriver dans le monde. Hein. On se sentait porté, si vous voulez, par ce mouvement de la jeunesse qui n'était pas simplement français. Mais on aurait tort de voir dans Dylan un militant. Hein. Je pense que, d'ailleurs, j'ai vu, on lui a remis, je ne sais plus quel insigne en France. Alors que là, c'était quoi? C'était vraiment Dylan reflétait, on ne peut mieux, le malaise de l'adolescence, si vous voulez. Avec des rapports aussi très difficiles par rapport aux femmes. On l'oublie, ça aussi. Mais il y avait aussi cette espèce de révolte, cette espèce de... J'allais dire aussi de ton, un peu, une dérision, une espèce de flot de mots et une musique absolument lancinante. On connaissait toutes les paroles par cœur. Donc, on avait un rapport avec Dylan qui correspondait aussi à ce moment-là. Because something is happening and you don't know what it is. Vous savez pas ce que c'est, mais il y a quelque chose, le monde est en train de changer et tous les adultes, c'est ça le message qui est porté, les écrivains, les journalistes, vous voyez pas ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qui est en train c'est le basculement du monde dans une autre étape de l'histoire avec une critique d'un peu de la folie du monde moderne, d'une certaine façon. Et je crois qu'on adhérait spontanément sans forcément comprendre les paroles. Alors, on a cherché les exégèses de Dylan, on cherchait une signification profonde, il y en avait certes, peut-être, mais en gros, c'était un reflet d'un moment donné d'une histoire où le monde était en train de basculer de l'ancien vers le nouveau, et l'adolescence reflétait ce moment de basculement avec toutes ses pulsions, ses passions. Et on le vivait comme ça, le tout, je le signale, par rapport dans une situation où la Hague, avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire des restes de l'ancien. Cette période très particulière, c'est à la fois les restes de l'ancien, on écoutait des paysans, ce retour sur l'ancien, et en même temps une modernité adolescente qui allait à la fin se révolter et faire basculer encore plus vite vers le nouveau monde, qui n'est pas forcément positif par ailleurs, mais c'était ça, avec une sourde angoisse d'ailleurs, hein, qu'on voyait dans les paroles de Dylan aussi, vis-à-vis de ce passage de l'ancien et du nouveau, et devenir adulte, c'est-à-dire se résigner au fait que tout n'est pas possible, qu'il y a l'épreuve du réel, qu'on peut pas rester dans l'imaginaire, et il y a une capacité de Dylan de nous projeter dans un imaginaire à lui, avec des personnages tout à fait fantastiques, mais il y a un moment où tout ça va finir, et nous ne voulions pas que ça finisse.
Eh ben, d'ailleurs, les adultes d'après 68 sont devenus, pour un certain nombre d'entre eux, des perpétuels adolescents, et ils n'ont jamais passé l'étape. Mais ce peuple adolescent que nous sommes, vous le décrivez dans d'autres livres, Jean-Pierre Le Goff. Celui-ci, que je recommande chaudement, La France d'hier, récit d'un monde adolescent chez Stock, s'inscrit dans la durée de votre enfance propre, de votre adolescence propre, et dans un paysage, celui du Cotentin. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Oliva, Rilinka Negulesco, Adèle Kaito, à la technique Julien Dumont, la réalisation Audrey Ripouille.